Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. L'abbé Sugère trouve les églises trop sombres. Lui, ce qu'il veut, c'est de la lumière. Il veut transformer en particulier sa chère abbaye de Saint-Denis, qui est la nécropole des rois. À propos de roi, il est très ami d'ailleurs avec le roi Louis VI, qu'on appelle le Gros, qui mérite son nom. Ce dernier ne va pas bien du tout, au point qu'il remet à son fils Louis l'anneau royal, en lui disant « il faudra aider les pauvres, aider l'église et tous les monastères ». Sugère est très content d'entendre ça. Au même moment, Sugère envoie un petit groupe de moines avec le frère Raoul en disant « il faut absolument trouver un maître d'œuvre qui soit en même temps architecte parce que je veux transformer l'abbaye de Saint-Denis ». Alors le frère Thomas et le frère Raoul reviennent avec la perle rare, un jeune maître architecte qui s'appelle Mathieu. Il œuvre déjà sur le chantier de Saint-Germain-de-Flies, ça se trouve entre Beauvais et Rouen, et en même temps, l'abbé Sugère trouve un maître charpentier qui travaille à Saint-Martin-des-Champs, dans Paris. Et voilà que s'ajoute à ces deux personnages un jeune homme nommé Étienne qui a travaillé à Sens et qui, dit-on, est très talentueux. Alors, il faut choisir. Donc, 5 moines se réunissent, se présente devant eux le maître architecte, c'est un monsieur de taille moyenne, le corps assez râblé, il donne une impression tout à fait d'équilibre. S'il quitte le chantier sur lequel il travaillait, c'est parce qu'il est assuré de la relève. Il est architecte, maître d'œuvre, depuis 10 ans. Et ce qu'il dit plaît beaucoup à l'abbé Sugère, et je le cite. Aujourd'hui, il faut songer à montrer des éléments de construction nouveaux. L'architecture évolue. La priorité doit être donnée à la sécurité des croyants et des pèlerins, priorité également au travail, au goût et au respect de la belle ouvrage. Sugère est tout à fait content d'entendre ça. Alors c'est au tour de Grégoire, le maître charpentier, qui se présente. Il explique sa passion pour les essais, les parois d'un nouveau genre, les voûtements différents et le rôle des colonnes. Sugère l'aurait écouté jusqu'au soir tellement il est intéressant. Alors qui choisir? Eh bien finalement, Sugère compose un tandem, le maître d'œuvre et le charpentier. Les deux hommes se mettent au travail immédiatement. Avec l'aide du tailleur de pierre, ils constituent donc des équipes. Les tailleurs de pierre répertorient les carrières de la région pour chercher évidemment une pierre qui convienne. Et ils remarquent qu'aucune ne fournit des pierres qui sont suffisamment belles et de bonne qualité pour une abbaye royale. Alors Sugère propose de demander l'avis du maître d'œuvre qui pour l'instant s'est absenté. En attendant, il côtoie beaucoup les artisans, les ouvriers. Le maître charpentier fait remarquer à Sugère qu'il faut bien traiter le forgeron parce que de lui dépend le bon état des outils. Mais il y a un problème, on n'a pas encore trouvé de maître verrier. Est-ce que c'est important? Ben oui, le maître d'œuvre dessine la façade qu'il a imaginée pour faire entrer la lumière selon le vœu de Sugère. C'est-à-dire 3 portails. Sur chaque portail, on va faire des sculptures, des statues-colonnes, et puis au-dessus du portail royal, on va faire une rose, la plus grande possible, c'est la première fois que l'on pense à ça pour une église. Donc, il nous faut un maître verrier. Roland le forgeron dit que les meilleurs se trouvent au-delà du Rhin. Alors, maître Mathieu, part chercher le meilleur verrier possible. 2 mois plus tard, il se présente à l'abbaye avec un homme blond, aux yeux bleus, Lothar, maître verrier de Sarrebruck. Il n'a obtenu que des compliments le concernant. Le seul handicap, c'est la difficulté de compréhension. Eh bien oui, nous avons affaire à un Allemand. Alors le latin sera d'un grand secours. À l'époque, on parlait le latin plus facilement que maintenant. Suger réunit alors tous les artisans, en tout ça fait quand même une bonne cinquantaine. Il leur délivre un sermon enthousiasmant sur l'œuvre qu'ils vont réaliser, qui sera l'ouvrage le plus prestigieux, le plus emblématique du royaume. À la suite de quoi, maître Mathieu demande à rejoindre Suger à la bibliothèque pour lui annoncer qu'il a trouvé une carrière intéressante à 2 lieues de Pontoise. Pour le transport, eh bien on va utiliser, c'est tout bête, hein, 2 rivières, l'Oise et la Seine. Chaque fin de semaine, Hervé, le prieur de l'abbaye, rassemble les artisans pour procéder à la paye. Et ils sont bien payés, parce que Suger dit que quand le travail est bien fait, il n'y a aucune raison d'être mesquin. Mai 1137, le duc d'Aquitaine, Guillaume, disparaît. Il laisse une jeune héritière, Aliénor, et dans son testament, il demande qu'elle épouse Louis, le fils de Louis VI le Gros et futur roi de France. Alors Louis VI, il est content, il accepte, je vais vous dire pourquoi, c'est que le territoire de l'Aquitaine est énorme. Donc Louis VI accepte, il veut se rendre aux cérémonies en Aquitaine. Hélas, il est bien trop faible, il reste dans son château de Béthisy, ça se trouve dans l'Oise actuellement. Louis part donc pour l'Aquitaine avec une escorte d'une centaine de chevaliers sous les ordres du comte Raoul de Vermandois et du comte Thibault. L'abbé Suger fait partie de l'expédition. On arrive à Bordeaux. La cérémonie de mariage a lieu le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Saint-André. Louis a 17 ans, Aliénor en a 15. La troupe prend le chemin du retour et on apprend alors le décès du roi. Il est mort le 1er août. Arrivé à Saint-Denis, Suger veille à ce que le souhait du roi soit exaucé. Un tombeau entre l'autel de la Sainte-Trinité et le maître-autel. Je vous rappelle que Saint-Denis, c'était là où tous les rois de France étaient enterrés. Le 25 décembre 1137, Louis VII est donc couronné roi. Et Aliénor aussi, pas à Reims, où c'était l'habitude d'aller, mais en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Le nouveau roi, est-ce qu'il allait protéger l'abbaye comme son père l'avait fait? Voilà que le tailleur de pierre se met à ne plus tailler du tout. Alors maître Grégoire le convoque, il n'en tire rien et s'en remet donc à l'abbé, lequel est complètement catastrophé, et se promet de tirer la chose au clair. Alors, il fait suivre le tailleur de pierre par un jeune oblat, et le poteau rose est découvert, Étienne est tombé amoureux. Suger veut savoir de qui. La jeune fille qui a répondu au sourire d'Étienne semble être une suivante de la vieille reine Adélaïde, la mère de Louis VI. Alors l'abbé se rend au palais. Tout ce qui intéresse l'abbé, ce n'est pas l'histoire d'amour, hein, c'est qu'il fasse son travail. Alors, il arrive au palais et il apprend que la jeune fille en question s'appelle Emmeline. Alors, il décide d'aider les deux jeunes gens parce qu'il veut évidemment retrouver l'ardeur au travail de son tailleur de pierre. Suger se rend donc au palais, rencontre la reine Aliénor, à qui il raconte ce qui se passe. Elle promet de convaincre le roi de dire oui au mariage et elle prend la jeune Emmeline à son service. Et les deux amoureux sont autorisés à se voir, écoutez bien, le dimanche, mais après l'office de nonne, c'est-à-dire après environ 15 heures. Nous allons faire une première pause musicale. Oh, Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de l'abbé Sugère qui a trouvé tous les artisans possibles pour transformer son abbaye de Saint-Denis, dans laquelle vient d'être enterré le roi Louis VI. Et il est tout content parce que son maître de tailleur de pierre, qui ne faisait plus rien du tout parce qu'il était tombé amoureux, redevient un excellent tailleur de pierre. Régulièrement, Sugère vient admirer ses portails. Il adore se retrouver au milieu des artisans, hein, et il regarde comment avance la rose. Il s'entretient avec Lothar, le maître verrier, et ce dernier explique que maître Étienne vient de terminer les entailles sur la pierre afin d'y déposer l'assemblage concocté par Lothar. L'abbé lui dit que s'il réussit à faire passer la lumière divine au travers de cette œuvre de couleur, il sera le plus heureux des hommes. Tout en surveillant son chantier, Sugère s'attelle à la biographie de Louis VI le Gros. Celui-ci lui avait demandé de le faire. On fixe une date pour les cérémonies de la dédicace. Je vous rappelle qu'on dit dédicace pour l'inauguration d'une cathédrale. Et donc, pour la dédicace du narthex. Narthex, c'est la partie qui se trouve en bas de la nef. Et la façade de la basilique. Ce sera le 9 juin 1140. Désormais, les pèlerins auront de la place pour se rassembler à l'intérieur avant d'aller prier devant les reliques des saints martyrs. Le grand jour arrive et ça commence mal. Maître Mathieu, le maître d'œuvre, annonce qu'il quitte le chantier et qu'il faut le remplacer. Alors, Sugère est complètement catastrophé. Et pourquoi ? Eh bien, maître Mathieu répond « Laissez-moi souligner un aspect très positif de mon départ. Pour ne rien vous cacher, je suis appelé à Chartres. » La cathédrale vient elle aussi d'inaugurer ses portails royaux et le maître d'ouvrage des lieux souhaite du sang neuf pour la suite. « À vous aussi, il faut un souffle nouveau. Alors, je vais vous trouver un successeur. » Le jour de l'inauguration arrive. Solennellement, l'abbé Sugère, le doyen Théophile et maître Mathieu pénètrent dans l'abbatiale. Le soleil perce la rose et sa dentelle de pierre. Le roi Louis VII, la reine Aliénor, l'archevêque Hugues de Rouen, des prélats pénètrent à leur tour. Et ils sont tous en admiration. Une vraie magie de couleurs. Sugère pense alors à un nouveau chevet. Il se dit, je vais faire quelque chose d'aussi lumineux que celui-là. Après plusieurs prières, Monseigneur Hugues de Rouen bénit la façade. Et on dit que cet abbé Sugère va certainement créer quelque chose de nouveau pour le chevet. Et en effet, il pense à un agrandissement avec encore plus de lumière. Donc, il faut remplacer maître Mathieu. Alors ce dernier résout le problème, il débauche le maître architecte de Saint-Germain de Flies. Il s'appelle maître Guillaume. Il plaît immédiatement à l'abbé Sugère, qui lui parle de la rénovation du chevet. « Et nous verrons plus tard pour la nef », dit l'abbé Sugère. Maître Guillaume se met aussitôt à l'ouvrage en dressant des plans pour le nouveau chevet et un nouveau chœur. Il pense bâtir haut, léger, avec de multiples baies. Eh bien, il faut commencer par abattre ce qui reste de l'ancienne façade pour que la nef et le narthex puissent se rejoindre. Sugère pense qu'il vit les plus beaux jours de sa vie. Il a 59 ans et vous savez bien qu'à cette époque, c'est pas commun de dépasser la soixantaine. Il décide d'aller voir les tailleurs de pierre près de Pontoise. Il est subjugué par l'hospitalité des carriers. Il y revoit maître Étienne et lui propose d'épouser la demoiselle Emmeline dont il est amoureux. Il lui dit même que le mariage aura lieu dans la basilique. Alors Étienne est éperdu de reconnaissance, ça se fait pas tous les jours dans une basilique. Maître Guillaume, le nouveau maître d'œuvre, alors, veut s'inspirer des différentes œuvres auxquelles il a déjà participé. Il pense associer toutes les innovations de l'arc brisé avec la voûte d'ogive normande et les appliquer à Saint-Denis, mais de façon plus symétrique et plus haute qu'à Saint-Martin-des-Champs et en laissant le plus de place possible aux parties vitrées. Maître Guillaume voit même des vitraux qui descendent jusqu'au sol. La pose de la première pierre est prévue pour le 14 juillet 1140 en présence de Sa Majesté Louis VII. Ce dernier sera accompagné de plusieurs évêques et c'est ce qui a lieu. Maintenant, Sugère pense au mariage de son chef de chantier avec Emmeline. Comme elle est demoiselle de cour, il faut l'autorisation d'Aliénor, laquelle la donne sans problème. Le mariage a donc lieu dans la basilique, en présence de la reine et de tous les artisans. L'abbé Sugère bénit le couple et l'instrument de travail du marié qui s'appelle la boucharde. C'est une sorte de marteau utilisé par les tailleurs de pierre. L'abbé Sugère a prévu pour tout le monde des tables couvertes de victuailles, mais attention, il faut éviter tout gaspillage. Les restes seront distribués aux pauvres de Saint-Denis. Alors le chantier grandit, il grandit à vue d'œil. L'abbé aime beaucoup assister aux travaux. Il admire tous ces artisans qui ont capté le message. Bâtir pour la gloire de Dieu, pas pour lui, il va le répéter souvent. Il veut maintenant parler avec le maître verrier pour lui expliquer exactement ce qu'il veut. Il dit que la lecture des vitraux doit se faire de bas en haut, c'est toujours vrai. Pour se terminer sur la partie la plus illuminée, illuminée par une lumière spirituelle, bien sûr, autant par une lumière naturelle. Maître Lothar se met donc à l'ouvrage. Il explique ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'abbé juge les couleurs et il est très orienté vers les bleus, bleus que l'on retrouvera à Chartres. Il songe à se faire représenter dans un vitrail. Mais alors, comme il est modeste, il veut une toute petite place auprès de la Vierge Marie. Étienne propose à la reine Aliénor de mettre son sourire même sur une sculpture de la Vierge. Et la reine en est vraiment bouleversée. Et voilà qu'intervient quelqu'un dont j'ai parlé déjà la dernière fois, Bernard de Clairvaux. Il reproche à l'abbé Sugère ses innovations, la richesse, la décoration de l'abbaye et surtout les vitraux qui sont trop colorés à son goût. Ces remarques n'entament pas la bonne humeur de l'abbé. Il dit qu'il s'occupe de ses abbayes, moi je m'occupe des miennes. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Thank you.
nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de l'abbé Sugère, à qui on doit un nouveau mode de construction des églises. Donc Bernard de Clairvaux, lui, est tout à fait opposé à ce style-là. Lui, ce qu'il veut, c'est sobriété, pauvreté. À quoi répond l'abbé Sugère ? Qu'il s'occupe de ses abbayes, moi je m'occupe des miennes. Donc nous œuvrons chacun, dit-il, à notre façon pour Dieu, ce qui est vrai. Le reste n'a aucune importance. Dans le chantier, il y a parfois des querelles. C'est ce qui se passe avec Maître Grégoire, le chef de chantier, le cherche partout et on ne le trouve pas. Pas de Maître Grégoire. Alors il faut monter échafaudage et puis le charpentier, il n'est pas là. On finit par découvrir le poteau rose. Ce maître charpentier, c'est un colosse gourmand et boulimique. Et même si d'ordinaire le chantier est copieux, lui, il a encore faim. Et il se sauve, il trouve à Paris des marchands de pâtés, des pâtés à l'anguille, des pâtés à la bécasse, son préféré. Et il s'absente souvent du chantier pour se régaler. Alors Maître Guillaume entre dans une colère noire, il convoque Grégoire dans la loge, il menace de le renvoyer. En fait, il n'a pas du tout envie de le renvoyer, mais il le menace. Alors après discussion, Grégoire promet de respecter les règles, d'être présent au chantier et on va le nourrir un petit peu plus. Tout à coup, ce dernier vient dire à l'abbé qu'il est inquiet parce qu'il se rend compte qu'il va manquer des troncs d'arbres. Alors il a envoyé 3 hommes de forêt en forêt, mais pour l'instant, on ne trouve aucun tronc d'arbre qui fasse l'affaire. Donc Sugère va rencontrer Sa Majesté et il lui dit « il nous faut absolument des troncs d'arbre ». Et le roi ne l'écoute pas beaucoup parce qu'en ce moment, il est furieux contre le pape qui l'a excommunié. Pourquoi ? Parce que Louis VII s'est opposé au pape pour le candidat à l'évêché de Bourges. Innocent II veut que ce soit Pierre de la Châtre, et Louis VII, non. Et il dit, je lui interdis d'entrer dans Bourges. Alors furieux, le pape l'a excommunié. Bon, ça fait que Sugère quitte le roi sans avoir aucune aide pour ces troncs d'arbres qui lui manquent. Donc, Maître Grégoire et 3 artisans charpentiers, avec 2 carrioles, partent à la recherche d'une forêt qu'ils soient susceptibles de leur fournir de beaux troncs d'arbres. Et ils arrivent à la forêt de Rambouillet. Et là, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Alors reste à savoir à qui appartient cette forêt de Rambouillet et d'obtenir l'accord du propriétaire. Et ça ne pose aucun problème. Et tout le monde repart avec 12 fûts magnifiques. En arrivant, Sugère est abordé par frère Théophile, complètement catastrophé. On a volé le calice et, horreur, les parchemins avec tous les plans des travaux. Alors l'abbé en avise le roi. On fouille, en particulier chez le chanoine Hugues, un vague cousin de la reine-mère, et on retrouve le ciboire d'or et d'argent. Mais pas les plans. Sugère alors, il ne se laisse pas abattre. Il dit, ça fait rien, on va recommencer. Les travaux continuent. Certains vitraux des chapelles rayonnantes sont prêts. Il réalise à quel point son maître verrier et ses adjoints maîtrisent le verre, car rien n'occulte le passage de la lumière. Alors il félicite maître Lothar, lequel répond que maître Guillaume, maître Grégoire et maître Étienne lui ont rendu la tâche facile. Dans l'après-midi, alors que l'abbé méditait dans sa cellule, il entend un grand bruit suivi de hurlements. Il se précipite vers le chantier. Hélas, un artisan charpentier vient de chuter du haut du chevet. Et bien sûr, il est mort. Sugère célèbre alors les obsèques dans la basilique. Tous les maîtres artisans sont présents. Après l'office, l'abbé fait venir la veuve et son fils. Et il lui dit qu'une messe mensuelle sera dite pour le charpentier et les moines de l'abbaye veilleront à ce que la veuve et l'enfant reçoivent leur manger quotidien pendant 1 an et après quoi la corporation des charpentiers prendra le relais. En ce mois de janvier 1144, le chevet semble sur le point d'être terminé. L'évêque de Chartres célèbre la messe dans la basilique quand tout à coup le vent se lève violemment. Les murs tremblent, les charpentes fraîchement installées bougent. Tout le monde se réfugie dans le narthex et prie. Courageux, maître Grégoire et quelques charpentiers consolident alors un échafaudage qui risque de tomber en entraînant quelques blocs de pierre qui ne sont pas encore collés par un mortier, lequel mortier n'est pas encore sec. Le vent finit par se calmer et l'abbatiale a tenu le choc. À l'évidence, Dieu l'a protégée. L'abbé tient à ce que le roi transfère les reliques depuis la crypte où elles sont jusque dans le chœur qui a été surélevé exprès. La date de la dédicace est donc fixée au 11 juin 1144. Le roi pourra être présent car l'excommunication est levée par le pape Innocent III. En attendant, Suger regarde la nef de la basilique et il se dit qu'elle aurait bien besoin de réparation ou plutôt de changement parce que finalement comme ça irait avec le reste. Alors il le dit à frère Théophile et frère Théophile, il n'est pas du tout content, il ne partage pas son point de vue. Il dit mais il ne faut rien changer à cette nef. Vous savez bien qu'elle a été construite par le roi Dagobert. Alors Suger dit qu'on en parlera avec tous les moines. Les moines se réunissent pour nonne. Nonne, c'est le service qui a lieu dans l'après-midi. Dans la basilique, quand tout à coup arrive maître Guillaume. L'abbé dit à frère Théophile de conduire l'office pendant qu'il s'éloigne avec maître Guillaume. Catastrophe. Alors qu'il reste encore à installer la clé de voûte, voilà que notre maître maçon est parti. Il nous reste moins de 2 semaines avant la dédicace. Il a dit qu'il partait travailler pour les Anglais à Caen. Alors maître Grégoire a proposé une solution. Louer les services du maître maçon de Saint-Germain-des-Champs simplement pour 15 jours. Suger dit qu'il s'en occupe et tout s'arrange. Donc arrive maître Raoul qui va venir. Quelques jours plus tard, en présence de tous les corps de métier, la clé de voûte est posée. Tout le monde tend le dos. Est-ce que ça va tenir ? Oui ! Ça tient, l'assemblée applaudit et crie de joie. On démonte alors l'échafaudage et un puissant soleil de juin perce les 2 vitraux de la chapelle axiale. Admiration de toute l'assemblée. Le jour de la dédicace arrive, Suger prie avant de s'y rendre. Il demande au Seigneur de le protéger de son orgueil. La vedette, dit-il, c'est la basilique construite pour vous. Merci à tous les artisans qui ont réalisé des merveilles et des merveilles d'un genre nouveau, une œuvre d'une grande beauté. Nous allons faire une 3e pause musicale. sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de l'abbé Sugère qui transforme complètement la basilique Saint-Denis pour en faire une église de lumière. Et là, on vient d'inaugurer donc la clé de voûte. Le roi et la reine arrivent pour la cérémonie. L'abbé a invité tous les archevêques, les évêques du royaume, les abbés des abbayes principales, qu'elles soient bénédictines ou qu'elles ne le soient pas. Il n'oublie pas d'inviter aussi Bernard de Clairvaux, pardon, en pensant qu'il ne viendra pas. Eh bien, il va se tromper. Beaucoup de curieux sont là. Des gens qui sont venus de Paris, de la foire du Landy, qui s'est ouverte quelques jours plus tôt, mais aussi de Sens, de Chartres, de Saint-Germain-le-Fly et de Bourges. Sugère a décidé de garder sa robe de bure. Il veut se montrer humble. On est là pour Dieu, pas pour lui. Le couple royal arrive, suivi des archevêques, des évêques, des seigneurs. Et qui voit-on ? Bernard de Clairvaux. Il est venu. Louis VII, accompagné de Sugère et de Maître Guillaume, descend dans la crypte. Puis le roi remonte en tenant les reliques de Saint-Denis, de Saint-Rustique et de Saint-Éleuthère. Il les dépose dans le nouveau reliquaire en cuivre doré. Tout le monde est émerveillé par la lumière, par les voûtes qui sont fines, élégantes, élancées. Certains évêques se disent qu'ils verraient bien une cathédrale du même modèle dans leur diocèse. À la fin de la cérémonie, Maître Mathieu dit à l'abbé Sugère que son évêque à Chartres, Monseigneur Geoffroy de Lèves, ne va pas se poser la question bien longtemps. Maintenant, le chantier tourne au ralenti parce que l'hiver est glacial et Sugère se demande s'il faut réaliser la nef ou une deuxième tour à la façade. Pendant cette période hivernale, un nouveau pape est élu, il s'appelle Eugène III. C'est un ancien cistercien, c'est-à-dire comme l'abbé Bernard de Clairvaux. Et Bernard de Clairvaux lui suggère de décréter une deuxième croisade. Il convainc même le roi à en faire partie. Un mois après l'élection du pape, voilà que le frère Théophile s'éteint. Et Sugère en est vraiment très affecté. Et le voilà pris d'une frénésie d'écriture. En plus de raconter la vie de Louis VI, il se dit « Et si je racontais tout le travail qui s'est effectué à la basilique ?» Et c'est ce qu'il entreprend. C'est intéressant pour la suite, hein, on connaît comme ça bien ce qui s'est passé. Le roi, certain de partir en croisade, doit nommer, pendant qu'il est parti, un ou plusieurs régents. Parce qu'une croisade, ça peut durer longtemps, ça peut même durer jusqu'à 3 ans. Et qui choisit-il pour diriger la France pendant ce temps-là ? L'abbé Sugère. Donc l'abbé Sugère est complètement surpris et il dit bien, il en aimerait en discuter avec le pape. C'est quand même pas rien de se retrouver à la tête d'un royaume. Or, ça tombe bien, voilà que le pape s'annonce pour célébrer Pâques à Saint-Denis. Une occasion donc de discuter avec lui de la régence du royaume. Les voilà ensemble après la cérémonie de Pâques. Et avant que Sugère puisse parler, Eugène III lui déclare qu'il lui confie la charge du royaume en l'absence du roi. Alors Sugère, vraiment, il en a le souffle coupé. Aussitôt, le pape nomme l'abbé de Saint-Denis vicaire apostolique. Vicaire apostolique, c'est le premier personnage religieux du royaume. Et pour soutenir Sugère, Eugène III dit « Je vais rester quelque temps ». Il consacre l'église Saint-Pierre de Montmartre le 21 avril 1147. Puis c'est la cérémonie de départ en croisade à Saint-Denis, bien sûr. Avant de partir, Louis VII adjoint à l'abbé, l'archevêque de Reims et le sénéchal Raoul de Vermandois. Si bien que Sugère se dit « Je vais m'installer au château de la cité », ça sera quand même plus facile pour gouverner, mais il dit au moine de Saint-Denis qu'il va venir quand même de temps en temps pour ne pas les laisser tomber. Alors pendant ce temps-là, la croisade arrive à Antioche en mars 1148, après avoir subi des pertes en cours de route. Louis VII et Aliénor y rencontrent alors Raymond de Poitiers, c'est l'oncle de la reine. Bon, la mésentente qui avait déjà commencé depuis un certain temps entre le roi et la reine s'aggrave ici, parce que Aliénor, elle passe son temps avec son oncle, et ils se parlent tous les deux en langue d'oc, et Louis VII, évidemment, ne la comprend pas du tout. Il décide alors de partir pour Jérusalem, et il dit qu'au passage, on va prendre la ville de Damas. Alors, c'est un échec tout à fait cuisant. Cette croisade pompe de plus en plus les finances du royaume, et pourtant, elles sont tenues du main de fer par Suger. L'abbé décide alors d'aller puiser, puisqu'il manque des sous, d'aller puiser dans les réserves de l'abbaye. Il est donc obligé d'interrompre les travaux. Il ne peut pas à la fois renforcer, n'est-ce pas, l'argent de la France et puis finir les travaux de l'abbaye. C'est un vrai crève-cœur pour lui. Dans le même temps, Louis VII décide de quitter la Terre Sainte et de revenir. Eh bien, il revient à Pâques 1149. Et on peut dire que la croisade a été un véritable échec. Il décide aussi de se séparer d'Aliénor parce qu'elle ne lui a donné que deux filles. Vous savez qu'à l'époque, on applique la loi Salique, c'est-à-dire ça ne peut être qu'un garçon qui succède. La santé de l'abbé Suger se dégrade et il se doute bien qu'il ne verra pas la nef achevée. Il prie pour tout le monde, mais il prie aussi pour sa chère basilique. Il a la joie d'avoir la visite de maître Guillaume, de maître Grégoire, de maître Étienne, de maître Lothar, qui lui raconte l'avancée des travaux. Et sentant sa fin proche, il se fait conduire à l'assemblée du chapitre. Il demande aux moines de lui choisir un successeur et de se soutenir les uns les autres. Les évêques de Soissons, de Senlis et de Noyon viennent soutenir l'abbé de leur présence. Le 12 janvier, Suger se fait conduire devant la chapelle avec le vitrail de la Vierge. Ce qui lui pèse, c'est de quitter la terre alors que les travaux ne sont pas finis. À quoi l'évêque de Soissons lui rétorque? Que son œuvre existe, que la basilique est largement commencée grâce à lui, que les évêques du royaume le copient partout, qu'il a inventé un art qu'on peut appeler un art français. L'abbé Suger de Saint-Denis s'éteint le 13 janvier 1151. Et pour vous raconter cette histoire, je me suis inspirée du livre de Jean-Pierre Castelin. Au revoir à tous.